Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Nous avons une invitée aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, c'est Laura Vitali, notre chroniqueuse littéraire, libraire chez Gibert Doucet. Bonjour Laura.
Bonjour.
Bonjour.
Et en deuxième partie, en écho au film de Koji Fukada, Didier, Love on Trial, qui est sorti en mars, tu vas nous parler du phénomène des idols en Corée et au Japon.
C'est ça.
Mais en attendant, Laura, quel trésor nous avez-vous déniché pour votre contribution à la commémoration des 140 ans de relations diplomatiques entre la France et la Corée ? J'aime bien le rappeler de temps en temps parce qu'on a peu de pays avec lesquels on est en relation depuis 140 ans.
C'est vrai, effectivement.
Alors vous commencez par comment ma femme s'est mariée ?
Oui. J'ai préféré commencer par celui-là parce qu'il est vraiment très très étonnant. Moi je n'aime pas le football.
D'accord.
Voilà, sachez-le, c'est très important.
Oui.
Mais par contre j'adore la Corée. Et ce bouquin a la particularité de parler de football, de pluriamour et de la Corée d'aujourd'hui. Et c'est un mélange assez détonnant. Donc on suit une narrateur qui découvre que sa femme en fait peut aimer plusieurs hommes, mais il l'aime tellement qu'il est prêt à accepter en fait cette nouvelle relation.
D'accord.
D'accord, et ça parle de foot. C'est vrai que la Corée du Sud est forte en foot, hein, Laura. Il faut le savoir.
Moi, je suis...
Ils adorent
Laura,
le foot.
Le foot, c'est pas ma passion, j'en sais foutre rien.
Okay. Oui, mais les Coréens adorent le foot.
D'accord, d'accord, d'accord.
Ils aiment le baseball.
Ok.
Et le foot.
Ok, bah c'est pas ma passion première. Donc.
Bon, c'est un livre étonnant. Ben oui, mais déjà, le titre est étonnant, Laura.
Tout à fait. De même que la couverture, on ne sait pas trop où on va quand on la voit. Mais il faut vraiment faire confiance à l'auteur, qui a un parti pris incroyable. Ça parle donc de pluriamour, de différentes façons d'aimer. Comme quoi, en fait, l'amour marital usuel qu'on connaît, nous, en fait, est très récent, il faut le savoir. Et l'auteur, justement, décortique tout ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fin de chapitre, justement, il fait des métaphores sur les relations de couple versus le football. C'est assez inattendu, assez surprenant. Et il raconte des épisodes hyper importants de l'histoire mondiale, de géopolitique, grâce au football, qui ont réussi à désamorcer des guerres, des choses comme ça.
Okay. Oui, donc d'où l'importance du football aussi.
Complètement. Voilà, qu'on aime ou pas le football, c'est pas un critère pour lire ce livre. Il faut d'abord être intéressé par la Corée.
D'accord.
Ici, ça paraît pas mal. Mmh.
Ça a l'air drôle aussi. Est-ce que c'est drôle ?
C'est complètement drôle et totalement atypique. Voilà.
C'est vraiment un coup de cœur.
Énorme coup de cœur.
Énorme coup de cœur de Laura.
Inattendu.
C'est important d'insister aussi.
C'est vrai. C'est vrai. Et totalement sous-côté et méconnu. Voilà, c'est chez
Piquet. On est là pour ça, c'est parfait.
Voilà. D'accord. Donc, je rappelle le titre. Hein, c'est « Comment ma femme s'est mariée ». Oui, un titre étonnant. Pour un livre étonnant. Okay. Et le nom de l'auteur, c'est Yoon Wook Park. C'est ça, Laura ?
Tout à fait.
Très bien. Alors, la vie rêvée des plantes, maintenant, Laura.
Alors,
c'est votre second choix. Enfin, c'est le deuxième. Non, on ne va pas dire que c'est le second
liste.
Choix. C'est,
ah oui,
c'est
non,
le
non,
deuxième
mais...
de la liste.
Oui, non, voilà. C'était pas dans
je
ce
cherchais
ça que
comment
je
le
disais.
Dire.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'ordre de préférence
c'est
sur
non,
cette liste. Il faut bien commencer par quelque chose.
Exactement. Donc, la vie rêvée des plantes.
Bon. Oui. C'est un très très beau texte que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Il est sorti il y a maintenant plus de 10 ans, je dirais à peu près.
Ah oui, quand même.
Ouais, ça date. Il était aux éditions Folio premièrement et les droits ont été perdus par Folio et ça a été récupéré par les éditions Zulma pour la petite histoire autour du livre.
Okay.
C'est très dur à résumer. Je vais plutôt parler d'atmosphère et d'ambiance pour ce livre. Pour moi, c'est un peu la quintessence de ce qui se fait en littérature asiatique, japonaise et coréenne
ah oui,
en particulier. Oui, parce que il y a une histoire, certes, mais il y a surtout des émotions. C'est très métaphorique, encore une fois. Les plantes, en fait, il y a des plantes un peu magiques, un peu étranges dans cette histoire. Mais c'est aussi l'histoire d'une famille, en fait, qui est à la fois blessée, qui essaye de se reconstruire avec de l'amour, mais ils ne savent pas comment le faire.
D'accord.
C'est rempli de blessures, de beauté. Mais en fait, le message principal, c'est vraiment qu'ils essayent de s'aider, de s'en sortir, en fait. Et c'est magnifique, mais à résumer, je vais être honnête, c'est
difficile,
très
à résumer.
Difficile.
Okay.
Voilà, faut juste faut le lire et vouloir le lire pour s'imprégner d'une ambiance particulière.
Il y a beaucoup de symbolique dans ce livre, j'imagine, avec les plantes. Parce que les plantes, c'est important. Hein. On l'a vu, hein, Didier, on a souvent parlé de la médecine traditionnelle, des plantes médicinales. Il y en a énormément hein, en Asie, en Corée particulièrement, et on les utilise toujours.
C'est vrai.
Ça fait partie de la cosmétique, de la cuisine, tout ça. Donc j'imagine que, effectivement, les plantes ont beaucoup d'importance en Corée. Ils aiment beaucoup la nature.
Complètement.
Les Coréens. Enfin, il n'y a pas que les Coréens, d'ailleurs.
Non, je ne pense pas.
Voilà, nous aussi, on aime les plantes.
Oui, mais même mais en Asie.
On en a pas le culte et peut-être...
On l'aborde différemment.
On l'aborde différemment, c'est puis ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a perdu un petit peu le sens de ce qui était les plantes médicinales. Enfin, oui, il y a les tisanes, certes, mais...
Oui, bon, ils ont gardé ce savoir un petit peu, on va dire, ancestral.
Oui, ils ont une vision des plantes très pointue et ils les utilisent beaucoup.
Tout à fait.
Alors, le troisième de la liste, Laura. Avec quoi vous allez nous étonner?
Alors, je vais partir sur...
Bienvenue.
Si ça vous va, ouais, très bien.
Bienvenue. Ah oui, on n'a pas donné le nom de l'auteur de La vie rêvée des plantes. C'est Lee Seung-yu.
Lee Seung-yu, oui. C'est ça.
Voilà. Exactement. Alors, bienvenue, c'est de Kim Yi Sol.
C'est ça. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est son seul livre paru en France, malheureusement. Je dis malheureusement parce que, pour l'instant, ça fait presque 8 ans que c'est sorti. Et pareil, il n'y en a pas eu d'autres.
Mais il vient d'arriver en France.
Il est arrivé en France il y a un moment aussi.
D'accord.
Mais je le trouve extrêmement important pour comprendre la Corée d'aujourd'hui.
D'accord.
Pour plein de raisons. On suit en fait l'histoire d'une femme qui essaye de s'en sortir par tous les moyens. Vraiment tous. Elle est serveuse dans un restaurant et malheureusement, dès les premières pages, on se rend compte qu'elle est obligée de se prostituer en plus de son travail de serveuse dans le restaurant même où elle sert.
D'accord.
Petite précision, avec l'aval et même la demande forte de son patron, on va dire. Et donc, on se dit, mais pourquoi cette femme en est arrivée à cette extrémité-là? Y avait-il d'autres solutions? La réponse, on va la voir assez vite en lisant le bouquin. Pas trop de solutions, justement. Et moi, je dis qu'il est important pour comprendre la Corée d'aujourd'hui parce qu'il faut savoir que c'est un des pays où les ménages, les foyers sont le plus endettés à titre personnel là-bas. Donc, l'endettement, c'est un sujet national là-bas. Chez nous, par rapport à la France, c'est assez anecdotique. Je crois que c'est le deuxième ou troisième pays le plus endetté. Et donc, beaucoup des romans contemporains coréens parle justement de finances, d'endettement, de difficultés de s'en sortir.
Oui, et d'emprunt. Hein. Il y a encore des usuriers en Corée.
Hein. Oui.
Donc, effectivement, bienvenue, ça parle en fait plutôt de la misère sociale.
La misère
là,
sociale.
Là, on est sûrement dans un roman assez dur.
C'est très dur. C'est très dur. Vraiment, émotionnellement.
Et très réaliste.
Complètement.
Sûrement.
C'est très réaliste pour moi, complètement. Mais il faut le lire pour comprendre cette culture. Mm-hmm. Il faut le lire aussi pour comprendre l'héroïne et ses choix.
Parce que c'est des choix qui peuvent choquer.
Ils sont durs aussi.
Voilà.
Ouais, les choix sont choquants, évidemment. Mais encore une fois, il faut le lire pour comprendre.
Destin de femme, un destin tragique de quelqu'un qui cherche à s'en sortir. Alors, je dis destin tragique, je ne devrais pas dire ça. Un destin de femme, vie de femme qui cherche à s'en sortir. Peut-être que la fin n'est pas tragique, du moins,
on
l'espère.
Découvrir.
Oui, ça, Laura ne va pas nous le dire.
D'accord.
Bon, je propose une pause musicale, Didier. J'ai trouvé, je crois, ça s'appelle So Taiji and Boys.
D'accord.
Je crois que c'est le premier groupe d'idols coréen. Oui.
Ok.
On écoute ça un petit moment avant de retrouver Laura.
D'accord, clairement, on va tenter l'aventure du premier groupe d'idols.
Un petit peu, hein, pas long.
Ok. Comme d'habitude. C'était l'extrait
Sotaiji.
D'accord, c'était les premiers. Heureusement qu'il y en a eu l'autre derrière. Enfin, c'est mon avis, hein, mais bon, voilà.
Oh, bon, voilà,
j'ai le droit, non ?
Oui, t'as le droit, t'as le droit, Didier.
Bon.
Chacun ses goûts.
Retour à la littérature, s'il vous plaît.
Oui, Laura. Alors, à propos de ma fille, oui. De Ye Jin Kim.
D'accord. Oui. C'est paru chez Gallimard il y a 2 ans. C'est un très beau roman aussi coréen contemporain. Pour le coup, ce que j'ai bien aimé, ce qui est plutôt rare en littérature coréenne, d'après moi, c'est qu'on parle de lesbianisme.
Et oui, c'est rare.
C'est plutôt rare. J'en ai pas lu beaucoup.
D'accord.
J'en ai lu un qui parlait de la communauté gay. Et là, voilà, lesbienne uniquement. À propos de ma fille, c'est l'histoire d'une mère de famille qui a du mal à s'en sortir financièrement. Il y a de l'écho.
Oui, il y a de l'écho.
Voilà. Sa fille est obligée, pour les mêmes raisons financières, de revenir à la maison. Sauf qu'elle ne dit pas à sa mère au début qu'elle est avec une femme. Et elle ne lui dit pas que, bah, elle aimerait bien la ramener aussi à la maison.
Okay.
Et donc, il y a vraiment une confrontation entre les idées bien ancrées de la maman et qui sont assez traditionnelles, hein, clairement, et qui est très réfractaire justement à la relation que sa fille a avec une autre femme. Et en même temps, ça parle d'endettement familial et même d'héritage d'endettement, si je puis dire.
Oui.
Donc c'est vraiment très très
oui,
bien.
Parce que les enfants héritent des dettes, hein, bah, en France aussi, mais on peut refuser l'héritage.
On peut refuser.
Ouais. Mais je pense que, je ne sais pas, vérifier,
je sais pas dire, oui.
Mais je me demande si en Corée c'est possible, je ne suis pas
ça,
du tout certaine.
Avec l'Asie, j'ai du mal à croire que ce soit possible, mais
oui, voilà,
pas.
J'aurais tendance à dire, vu tout ce qu'on peut lire, justement, ou les films, les enfants se retrouvent endettés à cause des parents.
Ouais, c'est possible.
Ils héritent de
la dette. On hérite de la dette d'honneur, j'ai envie de le dire comme ça, je pense.
C'est à propos de ma fille. Hein.
Voilà, exactement.
Et donc, une histoire de rapport mère-fille, avec un contexte, je dirais, d'un couple de femmes.
Voilà, de l'amour, du conflit, un peu de haine, de la rancœur, un mélange de tout ça. Vous mélangez tout ça et ça donne ce livre. Voilà, c'est très beau, c'est très poétique et c'est vraiment ancré dans le réel. Mais le côté du réel qui n'est pas forcément joli.
Oui.
Mais voilà, c'est aussi ça qu'on veut.
Mais ça, c'est tabou, hein, l'homosexualité encore en Corée. Hein, ça commence, les images commencent à changer, mais c'est
très
difficile.
Très long. C'est
long. C'est long. J'imagine.
Voilà. Et ça parle aussi du système de loyer là-bas qui est très différent de
oui.
la France.
Oui, on en a parlé
il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Oui,
voilà. Très différent.
Je laisserai creuser le sujet en lisant le
livre.
Oui,
réécouter l'émission.
Oui, réécouter l'émission. On a parlé du Jones, tout ça.
C'est ça. Okay.
Faut de l'argent pour louer. Il faut aussi de l'argent pour
c'est
louer.
Ça.
Exactement.
Alors, le dernier de la liste, on a gardé... Non, on n'a pas gardé. Ils
non,
sont
on
tous
pas...
meilleurs.
On
Ils
a dit que non, Corinne.
Ils sont tous meilleurs. Oui, oui, oui.
C'est ça.
La dénonciation de... Alors, le nom de l'auteur, c'est Bandi. Alors, c'est un livre particulier, ça, Laura, je crois.
Oui, tout est particulier dans ce texte. C'est un recueil de nouvelles, en fait, qui a été sorti clandestinement, en fait, de Corée du Nord.
D'accord.
Intéressant.
Donc, on ne sait pas qui est l'auteur. Bandi, c'est un pseudonyme. Bandi, ça veut dire luciole en coréen.
Okay.
Et donc, c'est vraiment le symbole aussi de la libération, de la lumière.
Qui s'échappe, qui vient
exactement,
vers nous.
La lumière, c'est le savoir, c'est la liberté. Et donc, Bandi a écrit ce texte. On ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas si Bandi est encore vivant ou autre.
Ah oui, c'est un homme ou une femme.
En, voilà, en Corée du Nord, c'est mieux qu'il soit encore anonyme, je crois. Hein.
Voilà.
J'imagine.
Et donc, les textes sont sortis clandestinement pour arriver jusqu'à nous.
D'accord.
Donc, évidemment, les droits d'auteur, je pense que c'était compliqué de les.
Oui,
transmettre
vrai.
Également.
Oui.
Mais voilà, ce qui est vraiment bien, tout est dans le titre, ça raconte...
Oui, je rappelle le titre, La dénonciation.
Voilà, ça donne vraiment, ça pose le décor et le contexte de la vie en Corée du Nord. Évidemment, on le sait avec de plus en plus de documentation, de documentaires, de films, de séries, etc. Mais le lire de l'intérieur, c'est encore plus glaçant. Voilà, il y a une nouvelle en particulier qui, moi, m'a marquée.
C'est un recueil de nouvelles.
C'est un recueil de nouvelles.
D'accord.
Complètement.
Ça doit être assez rare, en plus, comme littérature, j'imagine. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'imagine que des tels témoignages, on ne doit pas en avoir beaucoup.
Je pense que non.
Ben non.
Moi, je connais des témoignages de rescapés. Mais... Il y a eu beaucoup de témoignages de rescapés
bien sûr,
qui ont été traduits.
Par ce biais-là, oui.
Chez plein d'éditeurs. Mais ça, ça reste romancé.
D'accord.
Et oui, non, je pense que c'est un des rares, si ce n'est le seul.
Oui, moi, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il
n'y
en a pas non
ça,
plus.
Il
y a les... Oui, effectivement, ceux qui se sont échappés. Mais...
Oui, je n'avais pas pensé à ça, mais oui.
Ouais.
Là, c'est différent.
D'accord.
Oui, et donc, vous allez le voir si vous avez envie de vous le procurer.
Oui.
Mais
oui.
Certaines nouvelles sont vraiment hyper, hyper glaçantes, ce qui est en même temps le but et le propos de l'auteur, dont une en particulier... d'une femme avec son bébé qui essaye de s'en occuper du mieux qu'elle peut, en sachant que bah, des fois il fait jour, mais trop jour, alors elle ferme les rideaux. Il fait nuit, elle ferme les rideaux. Il fait pas assez jour, elle ouvre les rideaux. Ça paraît totalement anodin d'un point de vue occidental, voire sud-coréen. Mais en fait, certains de ses voisins sont persuadés que c'est un code secret, en fait, et qu'elle travaille pour l'ennemi.
Ah oui.
Juste le bouger de rideaux.
Mais bien sûr, forcément.
Et je pense que voilà, cette nouvelle n'est pas juste une idée de l'auteur. Je pense que c'est entendu et
d'accord,
vu, en fait.
Okay.
Donc c'est absolument terrible.
Jusqu'où la parado va, quoi.
C'est assez incroyable.
Ouais, oui.
Donc voilà.
Donc voilà, Laura, non, c'est fini, ouais. Malheureusement.
C'est une sélection très,
oui.
Histoire très féminine, je trouve, en fait.
Oui, c'est
oui,
vrai.
Hein,
c'est vrai.
C'est vrai.
D'accord.
Bah oui, je lis beaucoup d'autrices, il y a quelques
oui,
auteurs,
mais les histoires de femmes sont toujours impressionnantes.
Ah, ça manque pas d'intérêt, on est d'accord.
Et, bah, on est quand même 50% de l'humanité,
ah,
hein, au moins, non, voire virgule un peu
plus.
Je
ne voulais pas en venir là en disant ça, mais, mais voilà, c'est un constat.
C'est vrai.
Mais les femmes écrivent de plus en plus, je
ouais,
pense
ouais,
qu'il y a ça aussi.
C'est très bien.
Et puis, je crois que les femmes, les femmes qui se battent, là on a des femmes qui se battent, hein,
oui,
ou du moins des femmes qui ont des vies pas forcément dans le chemin, on va dire, attendu.
Complètement.
Donc, bah, merci beaucoup, Laura.
Avec plaisir.
On va vous rester avec nous pour écouter... une autre petite pause musicale,
oui.
Didier. Alors, tu...
Ah, moi, je ne peux pas t'en parler, vu en quoi c'est écrit, je ne sais pas lire ça.
Oui.
Mais c'est mais... en rapport avec le film
mais
dont
c'est
tu
ça.
As parlé.
C'est...
Mais je n'ai pas le titre exact, je veux dire.
D'accord.
C'est en rapport avec le film, c'est
Love,
quand j'ai cherché...
Love on Trial.
Voilà, j'ai cherché le
donc
thème de ce film.
C'est la, bande c'est la chanson de la bande originale
c'est ça,
du film, Didier.
C'est ça, si je ne me suis
voilà.
pas trompé, voilà, c'est ça.
Ça s'appelle Biik Len Ali.
Ah, bah
ah oui,
voilà.
Laura parle coréen.
Ah ben bah je m'excuse, pas moi.
Je ne sais que le lire et j'en parle très peu.
Eh ben c'est
oui,
très
mais
bien.
C'est déjà beaucoup de lire.
On va garder Laura dans l'émission pour nous aider par rapport
c'est
à
vrai.
Ça.
De temps en temps, on a besoin
que
d'une
moi, ça,
traductrice.
Je sais pas faire. J'aime, mais je ne sais pas faire.
Bon, on écoute Love on Trial.
C'est ça.
Là, c'est pas en coréen, c'est du japonais, Laura.
De quoi?
Love on Trial.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ah.
Donc, vous lisez le japonais aussi?
Non, pas du tout. J'aimerais
d'accord.
bien.
Mais c'est écrit en coréen aussi.
Là, c'est du coréen. Là,
ah
au tout début.
Eh ben voilà. Bon,
alors
on écoute Love on Trial. Merci
oui.
Didier pour Love on, la chanson, une des chansons
voilà.
du film Love on Trial.
C'est
et
ça.
Encore merci Laura hein, d'être venue. Il faudra revenir hein, très vite. Bon Didier,
oui.
c'est quoi ce phénomène des idoles? Explique-nous.
Alors, donc, on va parler, oui, le concept des idoles est caractéristique de l'industrie du divertissement du Japon et de la Corée du Sud.
Oui, c'est particulier à ces pays-là.
C'est ça. Le concept d'idol apparaît au Japon à partir des années 1960, hein, à une époque où la télévision et l'industrie musicale connaissent une croissance rapide. Alors, les idoles sont de jeunes chanteurs ou de jeunes chanteuses, souvent adolescents, qui sont promus pour leur musique, mais surtout pour leur image, leur personnalité et leur proximité avec le public. Alors, les idoles japonaises ne sont pas sélectionnées pour leur talent vocal exceptionnel, mais plutôt pour leur potentiel d'évolution et leur capacité à séduire un public, le public.
Alors, sur quoi se base leur réussite et comment va expliquer leur succès, qui n'est pas forcément lié au talent au Japon, si j'ai
ah,
bien compris.
C'est ça, exactement. Le principe qui fait leur succès, c'est toujours aujourd'hui au Japon, c'est celui de la croissance, de leur progression à l'aide des réseaux sociaux. Alors, les fans suivent l'évolution de l'idole depuis ses débuts, parfois hésitant, jusqu'à sa maturité artistique, ce qui crée un lien émotionnel fort avec l'artiste et son public. dans les années 1980, l'âge d'or des idoles, de nombreux jeunes chanteuses sont devenues des célébrités nationales que l'on voyait partout, dans les émissions musicales, à la télévision, dans les publicités, les séries télévisées, au cinéma. Aujourd'hui, la promotion des idoles se fait par des agences spécialisées dont le recrutement et la formation de jeunes talents. Alors, ces agences gèrent complètement leur carrière et en font des phénomènes médiatiques suivis par des fans extrêmement fidèles.
Alors, tu peux nous donner un exemple, Didier, de groupe japonais alors, des débuts des idoles.
Comme exemple, il y a le groupe AKB 48, donc de Akihabara, 48.
C'est ça.
Peut-être le phénomène le plus marquant de la culture pop japonaise contemporaine. Bah, alors, fondé en 2005, ce collectif féminin...
Mais c'est pas jeune, hein.
Non, on repose sur le concept original des idoles que l'on peut rencontrer. Contrairement aux groupes traditionnels, AKB 48 se distingue par sa structure ouverte et évolutive, car elle compte plusieurs dizaines de membres actives simultanément réparties en différentes équipes. Alors, leur nom vient de celui des quartiers de Akihabara à Tokyo, où se situe leur théâtre dédié, où elles se produisent quotidiennement en offrant aux fans une proximité unique avec elles, qui fait toujours en fait leur succès.
Oui, donc c'est ça, elles sont plusieurs.
C'est ça,
vraiment
c'est plusieurs teams en fait.
Même, oui, voilà. Plusieurs teams. Alors comment fonctionne leur système? Oui, comment ça fonctionne, Didier?
Bah voilà, justement,
leur système de
ce groupe, donc, a plusieurs équipes, plusieurs teams, chacune ayant son propre style selon un système de génération qui correspond aux vagues successives de recrutement. Une autre particularité, c'est la sélection des membres pour l'enregistrement d'un single qui se fait par l'implication du public et des fans qui votent avec des événements appelés élections générales. Le groupe a battu de nombreux records de vente de singles grâce à leurs fans qui achetaient plusieurs exemplaires du même album pour avoir des billets pour ces événements. C'est le commerce à fond. Hein. Cette stratégie commerciale contribue énormément aux ventes physiques, forcément, de musique au Japon, malgré la croissance du streaming. Parce qu'il n'y a pas de petit ticket quand on écoute en streaming. Hein, savoir aussi qu'aujourd'hui, ce groupe il est devenu une franchise. Le concept a été exporté dans plusieurs villes japonaises et à l'international avec des groupes sœurs en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines.
D'accord, oui, ça s'est exporté le concept. Hein.
Ouais.
Alors, comment se jouent les relations entre les idoles et leurs fans? Et ça, c'est montré dans le film un
c'est
peu,
ça,
c'est vrai.
Voilà,
mais
c'est...
on va l'expliquer
ça
pour les auditeurs.
Ça témoigne un peu de tout ça, ouais. Elles reposent au Japon, comme en Corée, hein, sur une image de pureté, de proximité. Ils doivent éviter les scandales. Alors, les agences imposent très souvent des règles strictes concernant la vie privée des artistes, notamment l'interdiction de relations amoureuses publiques. Alors, cette exigence répond à une attente culturelle. Les fans veulent croire en une relation spéciale avec leur idole, même si elle n'est que virtuelle.
Et en Corée, est-ce qu'il y a des particularités, Didier? Est-ce que c'est un peu différent quand même?
Alors, en Corée du Sud, le phénomène des idoles se développe plus tard, hein, dans les années 1990, quand les grandes entreprises de divertissement adoptent un modèle de production très organisé appelé les trainees system. Ces jeunes candidats, parfois recrutés dès l'enfance, hein, qui vont suivre plusieurs années de formation intensive, d'entraînement rigoureux dans de nombreux domaines, notamment en chant, en danse, en rap, en langue étrangère, etc. Ce système vise à produire des artistes extrêmement polyvalents, contrairement au modèle japonais où l'évolution progressive se fait, ça fait partie du charme, hein, des idoles, mais beaucoup de trainees ne feront jamais leur début, hein, car pour lancer un groupe, les agences sélectionnent uniquement les candidats jugés prêts.
Oui, ça c'est la grande différence.
C'est ça. C'est à partir des années 2010 que la K-pop, voilà, on y vient, va connaître une expansion internationale spectaculaire, hein, avec des groupes comme Girls' Generation, EXO, Blackpink et évidemment BTS.
Hein. Oui,
voilà, on y vient, hein, forcément, on y revient toujours. Hein. Devenu l'un des groupes les plus, c'est ça, les plus influents de la musique contemporaine, en tout cas.
Alors,
quel
est
ce style-là?
Oui, on n'a plus beaucoup de temps, Didier, mais bon, on va essayer quand même de faire le tour de la question. Quel est l'impact culturel et économique pour les deux pays?
Alors, on peut affirmer que les idoles jouent un rôle majeur dans l'économie culturelle des deux pays. Ils influent la mode, les tendances de consommation. En Corée du Sud, la K-pop soutenue par le gouvernement est devenue, on en a déjà parlé, un soft power important, contribuant à l'image internationale du pays.
Oui.
Au Japon, les idoles restent un pilier de l'industrie, hein, du divertissement domestique, mais leur influence internationale est plus limitée.
Oui, hein, je voulais quand même dire que Félix de Stray Kids, Kids.
Oui.
Et ambassadeur au titre des 140 ans
d'accord.
de la commémoration.
T'es au taquet, tu suis beaucoup plus ça que moi.
Bah, je dirais, il parle plusieurs langues, dont le français.
Ah, ça c'est un
ça
bon aide. Point.
Alors, ça fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir.
D'accord.
Alors, bon, concernant le phénomène des idols, excusez-moi, j'ai oui. fait une digression, j'aurais pas dû.
Vas-y, vas-y.
Il y a de nombreuses critiques quand même sur oui, le phénomène
oui. Didier. Oh, sans doute, hein. Le film en parle, oui, malgré leur popularité, les idoles font l'objet de critiques destructrices sur les réseaux sociaux. Les agences exercent une pression intense sur les artistes avec des contrats très exigeants qui peuvent avoir des conséquences importantes sur leur vie personnelle, leur santé, leur carrière. Derrière l'image en fait brillante que les idoles montrent au public, la réalité est tout autre. Hein. Leur exposition permanente à l'opinion des fans, aux médias, la restriction sur leur liberté personnelle peuvent causer des problèmes, on s'en doute, de santé mentale.
Oui, c'est clair.
Du coup, en effet, les idoles sont attendues sur leur apparence physique, leur performance artistique, sur leur comportement public. La moindre erreur peut entraîner des critiques massives, on imagine bien aujourd'hui, et sur les réseaux sociaux et voire de harcèlement, sans compter que les emplois du temps des idoles sont extrêmement chargés. On optimise tout, entraînement quotidien, tournage d'émissions, concerts, promotions, déplacements internationaux. Certains artistes, parfois, doivent suspendre temporairement leur carrière pour se soigner, pour se poser. Parce que
c'est, oui, ils sont surmenés. C'est trop dur, quoi. J'imagine qu'ils s'inquiètent aussi par rapport à leur carrière.
C'est ça, oui.
En deux mots, Didier.
Alors, en deux mots, la durée de la carrière, désolée, vous l'imaginez bien, elle est courte. Hein, c'est souvent assez éphémère comme carrière. Y a des nouveaux groupes qui apparaissent très, très régulièrement. Certaines idoles réussissent à se reconvertir, hein, mais dans le cinéma, la télévision, la mode, mais d'autres rencontrent des difficultés pour poursuivre leur carrière après la fin de leur groupe. Hein. Bon, c'est un vrai phénomène.
Un peu.
Mais avec des jolies opportunités, mais ça reste un monde bien compliqué. Et je vous invite en fait à découvrir aussi ça dans le film que tu as évoqué tout à l'heure.
Oui, et il y a un livre qui vient de sortir d'une japonaise qui s'appelle Idols. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais je le prendrai en photo pour mettre.
Et c'est chez Piquier.
Et puis c'est dans une librairie, s'il y a besoin d'en savoir plus, il suffit d'y aller.
Bon, Asialogie, c'est fini, les amis. On se retrouve la semaine prochaine.
D'accord.
Jeudi.
Oui.
Vous pouvez nous réécouter samedi à 9h30,
oui.
mercredi à 13h, et bien sûr sur toutes les plateformes, et surtout sur Radio Alpa 107.3.
Voilà.
À bientôt, prenez soin de vous.
Belle semaine.
Au revoir.
Et belle lecture.
Et merci Laura.
Merci à vous.